Vous connaissez peut-être Zélie, le magazine numérique féminin qui vous parle de mode, de culture, de psychologie ou encore d'actualité selon un angle chrétien. Mais saviez-vous que Zélie existe aussi en podcast ? Je suis Solange Pignat et je reçois chaque mois une femme chrétienne inspirée et inspirante. Aventurière, artiste, nutritionniste ou femme de militaire ? Venez écouter Zélie le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À tout de suite.
Bienvenue pour ce tout premier épisode du podcast Cœur de Mission. Chaque mois, un volontaire Fidesco de retour de mission prend la parole pour vous raconter son aventure missionnaire à l'autre bout de la Terre. Et pour ce premier épisode, nous accueillons Jean-Baptiste, parti servir les plus pauvres dans un village de Zambie. Les visages souriants de ses élèves, Patricia ou encore Georges, les plaines couvertes de savane, Lusaka, la capitale foisonnante et le silence des hauts plateaux, tout cela, c'est la Zambie. Sans en dévoiler davantage, Jean-Baptiste, je te laisse nous raconter ta mission.
Je m'appelle Jean-Baptiste Rousseau, j'ai 33 ans et je suis parti de 2014 à 2016 comme volontaire avec l'ONG Fidesco en Zambie, dans un petit village qui s'appelle Chikowa, en tant que directeur d'un centre de formation technique pour une centaine de jeunes qui apprenaient des métiers comme la menuiserie, la maçonnerie et l'agriculture. Et j'étais également professeur. À l'époque, je travaillais au siège d'une assurance et j'avais le désir au fond de moi de partir à l'aventure. J'avais envie de découvrir le monde. Je me disais que faire un long voyage comme ça, c'était intéressant, mais il manquait un peu le côté apporter quelque chose aux autres. Et j'ai entendu parler de Fidesco par un ancien volontaire et j'ai trouvé ça parfait, l'idée de mêler à la fois la rencontre d'une autre culture, le fait de découvrir une autre partie du monde et en même temps d'être au service en apportant une compétence, un vrai travail en fait que je pouvais mener sur place et qui allait aider des personnes qui en avaient besoin, des personnes qui étaient dans la précarité, la pauvreté. Donc c'est pour ça que je me suis embarqué dans un processus voilà, de formation, discernement avec Fidesco et que j'ai dit oui pour partir 2 ans. Alors la Zambie, c'est très différent, vous l'imaginez, de la France. C'est un pays qui est extrêmement beau, la savane, où on retrouve à quelques kilomètres de là où j'étais un des plus grands parcs naturels d'Afrique, qui s'appelle le Soslangwa, où il y a tous les animaux qu'on peut imaginer, des girafes, des prédateurs, les lions, les éléphants. Il fait très chaud, il n'y a que 2 saisons dans l'année, la saison des pluies et la saison chaude. Donc les températures peuvent grimper jusqu'à plus de 50 degrés sous le soleil. Et ce qui m'a marqué, moi, quand je suis arrivé, c'était l'impression que le soleil est plus grand, qu'il est rouge avec toutes les poussières de la terre. Et puis vraiment ce décor de carte postale où les personnes habitent dans des petites maisons, des petites huttes, un peu comme on imagine, avec des maisons faites de boue et des toits en paille. Puis à travers ces villages vivent de nombreuses personnes qui sont assez simples, assez pauvres, puisqu'il n'y a pas d'électricité ni d'eau courante, mais très accueillantes, très chaleureuses. Voilà, et j'ai vécu au cœur de Chikowa, de ce village, où il y avait à peu près 3000 personnes qui vivent en petites communautés, les uns assez proches des autres. Voilà, c'était mon décor durant ces 2 années. Mes premières impressions, ça a été d'une part le paysage, qui était vraiment très différent de celui en France. Notamment pour accéder à Chikowa, il faut faire à peu près 1h30 de route depuis la ville la plus proche, la plus grande. Et donc ça se fait en 4x4, sur des routes qui sont vraiment défoncées. Moi, j'étais en plus dans la benne du 4x4, ce qui est assez courant là-bas. Donc un peu un émerveillement de découvrir l'Afrique, quoi. Et de voir sur le bord de route tous les gens qui vivent tout simplement, et puis les enfants aussi qui avaient tendance à courir vers la voiture et donc à nous courir après, voilà. Et puis encore les, comme on peut l'imaginer un peu sur une carte postale, mais les femmes avec sur la tête des grands bidons d'eau là, qui marchaient pendant des kilomètres, ou encore des hommes qui traînaient leur vélo avec un grand tas de bois qui était accroché avec des ficelles. Et ça m'a vraiment ça m'a émerveillé de voir ça. Et puis après, au contact de ces premières ambiances, qui m'a marqué, c'était le fait que ils me disaient tous « You are the most welcome, feel at home. » Tu es le bienvenu, sens-toi comme à la maison. Ça, c'est quelque chose qui reste gravé un peu et que j'essaye de ne pas oublier quand je rencontre moi-même un étranger en France. Travailler avec les ambiances, c'est assez différent de ce qu'on peut imaginer en France. Les ambiances sont beaucoup moins ponctuelles. Pour eux, 1 heure n'est pas vraiment 1 heure, un retard non plus. Ce qui m'a marqué chez eux, c'est à la fois humainement, ils sont très souriants, très accueillants. De mon point de vue d'Européen, parfois pas très bien organisés en fait. Et donc moi, en tant que directeur de cette école, ce qui était parfois difficile, c'est que je devais gérer le matin même en fait des professeurs qui n'étaient pas présents ou qui avaient une heure de retard, sans que ça soit un problème pour personne, à part moi, mon regard d'Européen. Donc c'était assez marquant de voir la différence sur le point de vue culturel et professionnel qu'il pouvait y avoir entre des Français et des Zambiens. Voilà. Mais après, avec une vraie qualité de présence et de contact, ils s'occupaient des élèves vraiment un peu comme si c'était les leurs, leurs enfants. J'étais directeur de centre de formation technique, donc il y avait toute une partie assez importante d'administration du centre, c'est-à-dire le suivi des élèves, que ça soit disciplinaire ou scolaire. Le disciplinaire était pas évident parce qu'ayant moi-même 24 ans, je devais m'occuper de la discipline d'élèves de 18 à 30 ans, ce qui devenait encore plus compliqué du fait que c'était un internat, donc ils vivaient sur place pendant 3 mois, ce qui laissait forcément, vous l'imaginez, place à quelques débordements. Ça, c'était une grande partie d'être attentif à chaque étudiant. Et en fait, au fil du temps, ce qui m'a marqué aussi, c'est que j'ai réussi à imprimer le nom de chaque élève. Donc, je les appelais vraiment par leur prénom. Et pour moi, c'était « my student ». Et si au début, c'était un peu difficile de les reconnaître même physiquement, parfois les uns des autres, parce que le regard n'est pas habitué, à la fin, j'aimais bien passer du temps à les recevoir dans mon bureau pour faire des points, en particulier quand il y avait des demandes de leur part d'absence, des remarques des profs aussi sur peut-être des difficultés scolaires. Et puis au-delà de ça, en fait, vu que c'est un internat, le soir souvent je traînais un petit peu en allant vers les dortoirs et c'est là où je pouvais discuter avec eux et en fait en apprendre le plus sur eux. Et à côté de ça, j'avais aussi ce rôle d'enseignant qui était pour moi le plus gros challenge de ma mission Fidesco, du fait qu'en fait j'avais un anglais vraiment, on va dire, niveau lycée, alors que là je devais enseigner des cours de 2 heures magistraux en anglais. Donc, il m'a fallu à peu près 8 mois pour maîtriser la langue et être à peu près à l'aise devant les étudiants. Et ça a été des moments longs, difficiles. Je me souviens qu'un cours de 2 heures, ça prenait jusqu'à 8 heures pour moi, pour le préparer, pour tout écrire. Et j'étais tellement stressé que je m'étais dit au début, j'écris tout mon cours de A à Z. Comme ça, si je sais pas quoi faire, au lieu de perdre la face devant les étudiants, je lis simplement mon cours. Et donc, le cours commençait par « good afternoon » et ça finissait par « have a good day ». Voilà, donc je marquais vraiment tout de A à Z. Et puis, vu que j'ai vécu aussi cette mission dans la foi, je confiais vraiment ça dans la prière. Et en fait, ce qui m'a paru impossible au démarrage, c'est fait, voilà, de façon parfois un peu miraculeuse. Donc, le centre de formation où je travaillais avait la particularité d'être le centre le moins cher de tout le pays. Parce qu'il faut savoir qu'en Zambie, l'école à partir du lycée est payante. Et souvent, pour des familles les plus modestes, comme les paysans, c'est inaccessible. Ou alors, ils envoient 1 ou 2 enfants sur une famille de 6. Cette école avait vraiment pour vocation d'être accessible au plus grand nombre. Et en fait, à tous même. On avait même un système de bourse quand vraiment les jeunes n'avaient pas les moyens. On arrivait à faire ça parce que on avait à la fois une école, ce centre de formation avec ses 100 étudiants, ses 10 profs. Et juste à côté, on avait une énorme exploitation agricole avec une menuiserie semi-professionnelle. Donc, qui était géré par d'autres volontaires Fidesco et aussi des religieux, des frères, et qui générait une activité économique en vendant principalement des légumes et des fruits aux hôtels Safari, qui avaient à côté du plus grand parc qui était à 1 heure de route. Ils faisaient aussi des meubles sur mesure en bois avec des vrais menuisiers qui étaient certains des anciens étudiants. Avec tout cet argent qui était récolté, on pouvait subventionner jusqu'à 70% de leur formation. La plupart de nos jeunes, en fait, n'auraient jamais eu accès à un diplôme d'État de ce type-là s'ils n'étaient pas passés par notre école. Il y en avait certains qui venaient de plus ou moins loin. Il y en a qui venaient de 2 heures, 3 heures de route, justement parce que les frais étaient intéressants pour eux. Et puis après, il y avait aussi les jeunes qui, eux, habitaient vraiment dans les villages alentours et à qui on a voulu rendre la formation aussi accessible en ouvrant une formation un peu basique, CAP réduit en temps, qui était que du pratique, parce que la plupart d'entre eux savaient ni parler anglais ni écrire tout court. C'était une école privée, donc c'était la propriété du diocèse local. On avait quelques directives justement pour développer le centre, notamment en termes de formation. Et je me souviens d'une fois où l'évêque local, on se rencontrait 1 ou 2 fois par an, nous avait dit avec beaucoup d'assurance qu'il fallait absolument lancer un nouveau cours de mécanique automobile, puisque le nombre de voitures est grandissant en Zambie, des voitures qui sont souvent d'occasion, en très mauvais état. Donc aussi, la demande de mécaniciens est importante. Et les jeunes, garçons notamment, forcément, sont intéressés par les voitures. Et donc, il nous a dit ça. Nous, on trouvait que c'était une très bonne idée. Sauf que quand je lui ai demandé, OK, est-ce que vous avez un peu d'argent ou au moins déjà une voiture, quelque chose à nous donner pour lancer ce cours ? Il m'a dit non, on n'a rien. Je me suis retrouvé un peu démuni. Et puis finalement, on a dû partir de zéro. On est allé dans les parcs safari situés à côté, notamment les hôtels safari, en allant mendier un peu d'abord des pièces mécaniques. Après, on a réussi à trouver de façon un peu providentielle des moteurs cassés, mais qui pouvaient servir aux étudiants à faire de la pratique. Et puis jusqu'à trouver des Français en fait qui étaient en voyage avec leurs enfants qui faisaient le tour du monde, qui ont été tellement marqués par le projet, qui ont fait une cagnotte sur Internet pour nous acheter une voiture d'occasion. Voilà. Et puis moi, en tant que directeur, je devais aussi passer des heures et des heures, des jours auprès de l'administration zambienne pour faire accréditer ce cours, ce qui a été loin d'être une tâche facile. Trouver un professeur qualifié qui veut venir au milieu de la brousse en Zambie, c'est un peu mission impossible. Mais ça s'est fait, en fait, d'une façon que j'aurais pas imaginée. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que tout est possible avec Dieu. J'ai appris à connaître chacun des élèves. Il y en a certains qui m'ont plus marqué que d'autres, notamment parce que j'ai eu l'occasion de les accompagner au-delà, j'ai envie de dire, du périmètre scolaire. Je pense en particulier à une jeune qui s'appelle Patricia, qui avait à peu près 20 ans, qu'on avait accueillie à l'école pour un BTS en agriculture. Et la particularité, c'est qu'elle avait des résultats scolaires, donc son bac qui était très faible. Donc les professeurs... On a fait un conseil et puis on s'est dit, on va quand même lui laisser sa chance pour intégrer l'école avec pas mal de doutes. Et il s'est avéré en fait que Patricia, très rapidement, elle était en décrochage scolaire puisqu'elle comprenait mal l'anglais. Tous nos cours étaient en anglais. Et puis, elle était souvent absente, c'est-à-dire qu'elle se recluait dans sa chambre toute seule. On ne savait pas trop pourquoi. Patricia était plutôt d'une nature timide et pourtant avec un visage un peu comme les Zambiens qui sont tous souriants, mais toujours un grand sourire dans le silence. Un jour, elle avait raté un de mes cours. Je faisais des cours de formation humaine. C'était une extra classe où on pouvait aborder des sujets comme l'éducation civique, le développement personnel, le management aussi. Ayant raté ce cours, j'ai demandé à Patricia de venir dans mon bureau pour lui réexpliquer. Et le cours, c'était la connaissance de soi. Et c'était de dire que, à travers le regard des autres, on peut découvrir en nous des qualités, des forces, parfois des faiblesses, qu'on n'aurait pas nous-mêmes aperçues, dont on n'avait pas conscience. Et donc, j'explique ça à Patricia et je lui dis après, Patricia, et toi, tu connais tes qualités ? Et là, elle me regarde, moi, des qualités ? Non. Non, vraiment pas, mais dites-moi. Alors, je la regarde et puis je lui dis sincèrement, parce que, comme je vous disais, elle avait ce grand sourire. Je lui dis, déjà, ton sourire, t'es vraiment une personne très, très souriante. Moi, j'ai pas vu d'autres élèves qui avaient un sourire comme le tien. Et j'ai senti, en fait, que c'était la première fois de sa vie, peut-être qu'elle recevait vraiment un compliment. Et à partir de là, s'est nouée un peu une relation de confiance. Et j'ai dit à Patricia, surtout, hésite pas à repasser dans mon bureau si tu veux qu'on discute, si tu veux peut-être si t'as besoin d'aide d'une autre façon, vu qu'on voit que t'es souvent absente. Et en fait, elle est repassée dans mon bureau plusieurs fois. D'abord pour me confier que des élèves étaient un peu difficiles avec elle, des garçons, la harcelaient en fait. J'ai pu en tant que directeur les recadrer et puis surtout prendre d'autres élèves qui étaient un peu plus sympas, on va dire, en tout cas plus engagés dans l'école et leur dire faut vraiment veiller sur Patricia parce qu'elle n'est pas intégrée. Et donc de fil en aiguille, elle s'est complètement ouverte. Elle a pris confiance en elle et elle s'est fait des amis dans l'école. Et puis ça l'a complètement transformée. Et puis aussi dans ce lien de confiance, elle m'a confié qu'elle avait des soucis de santé. Des soucis de santé, en plus, qui étaient plutôt de l'ordre intime et qu'elle utilisait que la médecine traditionnelle, c'est-à-dire des plantes. Et donc, en fait, ces problèmes n'étaient pas résolus et c'est ce qui l'empêchait d'aller en cours elle tombait souvent malade. Donc, j'ai pu l'emmener à l'hôpital, qui était situé assez loin de l'école. Elle a pu être prise en charge par un médecin et, en fait, qui lui a donné un traitement. Et elle a pu rapidement, en fait, il n'y avait plus de soucis et donc, elle était pleinement à l'école et elle suivait pleinement les cours. Et ce qui m'a marqué chez Patricia, c'est que finalement, à la fin de l'année, elle s'est engagée dans la chorale de l'école en tant que responsable de la chorale. Donc, c'est elle, avec une petite baguette, qui animait les 20-25 chanteurs et tambours. Et c'était juste magnifique de la voir, elle, qui était si timide, en fait, avoir pris sa place, s'être fait des amis et être aussi joyeuse. Et en partant, au bout d'un an, parce que la formation durait un an, elle est venue nous remercier chacun des volontaires. Et elle est venue dans mon bureau en me demandant vraiment si elle pouvait prendre un temps avec moi. Et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, je voulais vous remercier parce que j'ai passé la meilleure année de toute ma vie. Cette phrase, je l'ai encore en tête, j'ai passé la meilleure année de toute ma vie. En fait, j'ai compris à travers Patricia que cette mission de 2 ans que j'avais faite, dans les joies et les difficultés, parce qu'il y en a beaucoup, la solitude, le temps, parfois c'est long. Rien que pour Patricia, s'il y avait eu que elle, rien que pour voir cette transformation chez elle, c'est la meilleure année de ma vie, j'aurais été capable de refaire la mission exactement pareil. Et donc ça m'a fait prendre conscience que je peux être un petit instrument à ma mesure qui peut être acteur de la transformation de jeunes. Et ça, c'est trop beau et ça m'a donné une joie que je pense pas avoir regoutée depuis. Alors, je vous parlais des difficultés que j'ai pu connaître en mission. Il y en a eu, notamment ce qui a été difficile, ça a été parfois de voir que, en tant que blanc européen, on n'était pas forcément toujours les bienvenus, ou en tout cas les bien perçus par les locaux et les étudiants, notamment parce qu'ils pensaient qu'on était là vraiment comme un travail pour amasser de l'argent, puisque être professeur ou encore plus directeur d'une école, c'est vraiment une position sociale très élevée. Et un matin, en rentrant dans mon bureau, j'ai vu qu'il y avait plein de petits papiers qui avaient été glissés sous ma porte durant la nuit. Et en regardant ces papiers, c'était vraiment dur. C'était des phrases du type « sale blanc, dégage, on n'a pas besoin de toi ici ». Il y en avait plusieurs comme ça. Et ça m'a mis vraiment alors un coup dur à moi et puis aussi à mes co-volontaires. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « mais franchement, c'est abusé, quoi. Je viens donner 2 ans de mon temps, c'est loin d'être facile. Je le fais pour eux et puis c'est comme ça qu'ils me remercient. » Et en fait, j'ai compris, à travers ça notamment, et à travers d'autres retours, que je devais juste me donner, être au service, mais que je devais pas chercher de retour. En fait, que le retour, s'il m'était donné, comme il m'était donné, par exemple, avec la jolie phrase de Patricia, qui m'a remercié parce que c'était la meilleure année de sa vie, je devais vraiment pas m'y attacher, et que ça m'appartenait pas. Et qu'en fait, j'étais là pour faire ma part. Et puis, le reste, c'était un peu du bonus. Donc, ça m'a appris à me détacher du résultat. Voilà, à donner le meilleur de moi-même sans forcément chercher un résultat. Et dans les difficultés aussi, je pense qu'il y a eu l'éloignement, parce que 2 ans loin de la France sans retour, parfois c'est long, pas en contact avec les amis ni la famille. Mais en même temps, ça m'a permis aussi de me forcer d'une à rencontrer les gens sur place, les gens bien, à nouer des relations un peu plus que professionnelles, notamment avec les voisins. On habitait sur le même compound. Puis surtout avec mes co-volontaires Fidesco, qui étaient des gars de mon âge, avec qui on est devenus des vrais amis, des amitiés qui durent encore aujourd'hui après 8 ans, c'est aussi une joie. Une joie que j'ai expérimentée dans ma mission, c'était aussi de voir les jeunes s'émerveiller du fait d'apprendre, en fait, un nouveau métier. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en Zambie, une grande partie de la population est agriculteur, quoi. C'est-à-dire que de famille en famille, notamment dans toute la partie rurale, la province, les gens sont agriculteurs de père en fils, et toute la famille contribue. Et donc, pour les jeunes, c'est souvent difficile puisque, en fait, ils se disent que leur avenir est un peu déjà tout tracé. Ils feront comme leurs parents. Ils resteront au village. Ils trahiront le champ. Et cette école, qui est le Chikwa Youth Development Center, avait vraiment pour vocation de leur offrir des technical skills. Et donc, notre phrase, c'était un peu notre motto. C'était technical skills for a better future. Voilà. Des compétences techniques pour un meilleur avenir. Et je pense, par exemple, à un jeune, qui était dans les villages. Lui, il était même pas interne parce qu'il habitait juste à côté. On avait lancé une formation courte de 3 mois seulement pour ces étudiants-là qui ne parlaient pas du tout anglais, en maçonnerie et en menuiserie. Et Jimmy avait choisi la maçonnerie. Et puis au bout de quelques semaines, enfin au bout d'un mois à peu près, je passais dans l'atelier de maçonnerie et là je vois Jimmy qui m'interpelle et qui me dit « Sir, look !» Et il me montre un mur. C'était littéralement juste un mur de 4 briques de haut, avec du ciment entre chaque brique, et je regarde son mur et je lui dis ok, yes, and so, et il me dit look, et là il lève les yeux au ciel et il dit I am a bricklayer, donc je suis un maçon. En disant ça, je vois lui qui était plutôt en plus un jeune un peu de visage, il a l'air un peu plus triste, un peu, on va dire, blasé. Et là il était son visage était transformé, quoi. Et j'ai compris quand il disait je suis un maçon. En fait, il prenait conscience à ce moment-là que sa vie allait changer et qu'il n'allait pas forcément être agriculteur comme ses parents, qu'il y avait une autre possibilité qui s'ouvrait à lui. Et ça, c'était très beau parce que quelques mois après, une fois qu'il avait terminé sa formation, je l'ai retrouvé dans les villages à côté en train de construire des maisons en briques. Enfin, une boutique, là, en l'occurrence, une vraie boutique. Et c'était assez impressionnant, d'ailleurs, en termes de hauteur. Et en fait, il était là tout content dans sa nouvelle vie, quoi. Et puis, Jimmy, en plus, grâce à ça, a pu rencontrer une femme, parce que c'est important d'avoir une situation de rencontrer une femme en Zambie, et donc il a pu se marier. Donc ça, c'est vraiment une joie parmi d'autres, mais la joie de voir des jeunes transformés. Il y a un autre jeune qui m'a beaucoup marqué, un autre étudiant qui s'appelait Georges. Je l'ai rencontré en partant à la capitale. Donc, la capitale, c'est à 10 heures de bus de là où on était à Chicoa, ce petit village. Et je devais y aller de temps en temps pour aller voir l'administration zambienne et notamment inscrire les étudiants aux examens et puis accréditer nos profs pour dispenser les formations. Et donc, je passais en général plusieurs jours. Et là, je devais en plus ouvrir un nouveau cours en mécanique automobile. J'avais l'obligation de trouver certains ouvrages pour la bibliothèque afin de pouvoir avoir l'accréditation d'ouverture. Et en fait, les livres que l'administration nous demandait étaient introuvables, tout simplement parce qu'ils n'étaient plus édités. Et donc, je me suis retrouvé plusieurs journées d'affilée à parcourir la capitale, qui est vraiment importante, c'est plusieurs millions d'habitants, à la recherche de ces fameux livres. En allant d'échec en échec, je vais dans une autre librairie où il n'y avait pas les livres. Et en sortant, on me propose de m'aider. On dit, il y a Georges là, qui est là, qui peut vous aider à trouver vos livres. Et là, je vois Georges, et puis je me dis, intérieurement, il veut, lui, je sens qu'il va me demander de l'argent, quoi. Donc, c'est pas la peine. Et donc, j'essaye un peu de m'en débarrasser, mais il était trop collant. Et donc, j'ai dit, OK, montre-moi. Et donc, on est parti dans un autre coin que je connaissais pas, on a cherché de boutique en boutique les livres. En fait, je me suis vite rendu compte que Georges était encore plus perdu que moi. Il est arrivé l'heure du déjeuner sous le cagnard de la Zambie, plein centre-ville. Je lui propose de l'inviter au restaurant et il refuse. Il me dit non, moi je veux pas que vous m'invitez au restaurant, donnez-moi juste l'argent, ça me sera plus utile. Comme en mission Fidesco, en tant que volontaire, on ne donne pas d'argent. Je lui dis non, je pourrais pas te donner d'argent, par contre, je peux t'offrir ce repas. Et donc, il a accepté, on allait manger. Et pendant le repas, il m'a dit, est-ce que vous auriez pas du travail pour moi dans votre école, là où vous êtes? À ce moment-là, j'avais aucun poste à lui proposer. Donc Georges avait le même âge que moi, j'avais 24 ans, il avait 23 ans. Donc je me creuse la tête un certain temps avec lui pendant le repas à chercher qu'est-ce qu'il pourrait faire comme travail. Voilà, avec des idées, peut-être qu'il pourrait lancer un petit commerce de vente d'objets. Et puis au bout d'un moment, j'ai une espèce de lueur dans mon esprit. Puis je me dis, mais t'es bête ou quoi Jean-Baptiste, t'as mieux à lui offrir qu'un job, en fait, tu peux lui offrir une formation. Et puis, pour qu'après il puisse justement trouver un travail. Et donc là je lui dis, Georges attends... J'ai mieux à t'offrir qu'un travail. En fait, moi, je suis directeur d'une école technique pour les jeunes en difficulté. Et donc, je peux me débrouiller pour que tu viennes pendant une formation courte et t'apprends la menuiserie et la maçonnerie. Et il me dit, vous êtes sûr, c'est vrai, c'est possible et tout. Je dis, oui. Il dit, mais moi, j'ai vraiment pas d'argent. Je dis, mais t'en fais pas, on trouvera une bourse, quelque chose. T'auras rien à débourser à part ton billet de bus pour venir jusqu'à l'école. Et là, il s'est arrêté. Il a levé les yeux au ciel, enfin, au plafond, quoi. Et il a dit, je savais que ce jour arriverait. Je savais, Jésus, tu ne m'as pas abandonné. Ce jour, c'est maintenant. Et là, moi, j'étais un peu étonné de sa réponse. Puis là, il m'explique qu'en fait, voilà, il avait beaucoup prié pour qu'un jour, il puisse avoir une opportunité, quelque chose. Alors, je lui laisse mon numéro de téléphone sur un flyer de l'école et je lui dis, parce qu'il n'avait pas de téléphone portable, et je lui dis, surtout, tu m'appelles avant telle date pour la rentrée, pour qu'on s'organise. Et bien sûr, il m'a jamais appelé. Et donc, Georges, il sortait pas de ma tête. J'arrêtais pas d'y penser. Sauf que j'avais aucun moyen de le retrouver, si ce n'est la librairie, l'endroit où je l'avais croisé. Et donc, je me suis dit, OK, essayons. Donc, j'ai appelé la librairie, premier numéro. Ils savaient pas qui était Georges, qui m'ont donné un deuxième numéro d'employé, qui savaient pas qui était Georges, qui m'ont donné un troisième numéro d'employé, qui savaient toujours pas qui était. Et ainsi de suite, jusqu'à tomber sur une femme qui m'a dit, oui, je me souviens de ce jeune. C'était il y a plus de 3 mois. On l'accueillait. En fait, c'est un jeune qui vit dans la rue. Mais on l'accueillait parce qu'il aime beaucoup les livres et c'était une façon de l'occuper son temps. Il aimait bien parler des livres avec les clients. Mais en fait, il nous a volé un livre et donc on lui a dit jamais de remettre les pieds ici. Et donc j'étais un peu dépité parce que je me dis, mince, je vais vraiment pas le retrouver. Alors je dis à cette femme, je dis, écoutez, si jamais vous le retrouvez, vous le recroisez, il revient, donnez-lui mon numéro de téléphone, dites-lui que je le cherche. Une semaine passe et arrive la rentrée. Enfin, c'était à quelques jours. Et là, je reçois un coup de fil et c'était Georges. Et donc Georges, je me souviens toujours, il était super surpris et il me dit « Ah monsieur, c'est incroyable ce qui est arrivé ». Je dis « Ah bon, bah, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Bah, j'étais dans la capitale, donc en plein centre-ville, il y a plein de personnes dans la capitale, c'est bondé. » Il dit « Et là, quelqu'un me tape dans l'épaule en marchant. On se tape, on bump. » Et en fait, en regardant la personne qui a tapé dans l'épaule, c'était la femme de la librairie. Et quand elle me voit, elle me regarde, elle fait « Oh Georges, mais c'est incroyable !» Il y a quelques jours, le blanc a appelé et par rapport à ta formation qu'il t'avait proposée. Il me dit, mais moi, monsieur, je pensais que vous m'aviez oublié, que vous aviez dit ça juste comme ça, mais que c'était pas vrai. Je dis, si, c'est vrai. Et donc, on s'est organisé et finalement, Georges est arrivé avec un bus à l'école. Et quand on allait chercher avec le 4x4 avec un autre volontaire, s'est rendu compte que Georges était venu les mains vides. Il avait un sac, une paire de chaussures et un t-shirt de rechange pour une formation en internat de 3 mois complète. Il n'avait absolument rien et en plus, il sentait l'alcool. Donc, on s'est dit avec l'autre volontaire que ça allait être compliqué à gérer cette situation puisque l'alcool était complètement interdit au sein de l'école afin de tenir les jeunes. Et donc, on a accueilli Georges. Entre volontaires, on s'est débrouillé pour récupérer ce qui lui manquait. Donc, on a donné des t-shirts qu'on avait, des pantalons, des chaussettes. On allait acheter du dentifrice, une brosse à dents à côté. Puis, on lui a fait un petit package et puis je l'ai pris dans mon bureau et je lui ai dit « Écoute, Georges, par contre, je vais être très clair avec toi. Les règles, elles sont assez strictes ici. Et donc, notamment, c'est pas d'alcool. » Et là, il me dit « Ah, monsieur, désolé, mais je suis vraiment là pour changer. » Et vu que je savais qu'il aimait beaucoup lire, il avait un excellent anglais, en fait. Et donc, je lui ai aussi donné une Bible. Je lui ai dit « Tiens, toi qui aimes bien lire, tu pourrais lire la Bible, tu verras, il y a plein d'histoires, c'est un grand livre. » Et donc, Georges, en fait, au fil des semaines, au fil des mois, il s'est complètement transformé. Il avait choisi le cours en menuiserie. Il n'avait pas plus d'intérêt que ça pour la maçonnerie, pardon, c'était la maçonnerie. Il n'avait pas plus d'intérêt que ça. Mais par contre, il était super heureux, en fait, de se faire des amis. Et en fait, il venait me voir en me disant « Mais je revis. J'ai jamais vu d'autres jeunes, en fait. » Comme ça, en ville, à la capitale, qui était aussi joyeux. Il était marqué aussi lui-même par la bonté de ces jeunes plutôt de province, de ces jeunes des campagnes. Et je me souviens, un jour, il est venu me voir, il m'a dit « Regardez, look. » Il m'a montré sa peau. Il m'a dit « Regardez la couleur de ma peau. » En fait, moi, je voyais pas la différence, mais il me dit « En fait, sa peau était beaucoup plus claire. » Et il me dit « Ça, monsieur, c'est le signe que, en fait, c'est un sevrage de l'alcool. » Puis en plus, en lisant la Bible, Georges a fait une expérience de foi. C'était ses mots, il me disait « Mais je comprends que Dieu est vivant, Dieu est présent, Dieu m'aime. » Puis il venait tous les jours nous voir pour nous raconter un peu ses découvertes dans la Bible. Et on était nous-mêmes un peu surpris, en fait, de voir ce qui se passait sous nos yeux. Et en fait, la fin a été un peu moins drôle parce que les étudiants devaient partir en vacances pendant un mois. Lui aussi, sauf qu'il n'avait pas de chez lui vu qu'il était un jeune de la rue, donc on a proposé qu'il reste dans l'internat et qu'en échange, il aille travailler dans notre exploitation agricole. Et avec le peu d'argent qu'on lui donnait, on lui faisait des bons pour qu'il aille à une boutique acheter des produits. Et en fait, Georges, j'ai attrapé une fois, il était complètement ivre. Je lui ai dit que ça allait pas être possible. Et puis une deuxième fois, et en fait, on a découvert qu'il avait bu, et en plus que c'était un de nos professeurs qui l'avait fait retomber dans l'alcool. Et toujours dans ces vacances-là, un matin, je vais à l'école et en fait, notre salle informatique avait été fracturée. Donc, les barreaux avaient été cassés aux fenêtres et il y avait des écrans qui avaient été volés, tirés par l'extérieur. Donc, on était super étonnés de ça. Et en fait, Georges arrive dans mon bureau, s'assoit devant moi et me dit « Écoutez, monsieur, c'est moi qui ai fait ça cette nuit. » Je dis « Ah bon, mais pourquoi t'as fait ça ?» Il me dit « En fait, ce matin, j'ai hésité à partir en courant et à jamais revenir. Et je me suis dit qu'après tout ce que vous aviez fait pour moi, c'était quand même le minimum que je vous dise que c'était moi. » Et en fait, il avait volé des écrans pour aller s'acheter de l'alcool, vraiment du fait d'une dépendance à l'alcoolisme. Et on s'est retrouvé avec le missionnaire, qui était le frère sur place, qui gérait l'exploitation, à dire « Qu'est-ce qu'on fait ?» Puis on s'est dit finalement, après réflexion, que c'était pas possible de le garder, avec le retour des autres élèves, que ça allait donner un contre-exemple. Et donc, on était obligé de le renvoyer. Donc, on l'a mis dans un bus et puis... Moi, j'étais super en colère. J'ai pas dormi de la nuit. Parce qu'on devait l'emmener à 3h du matin au bus. Nous, on lui avait tout donné à Georges. On lui a même donné un uniforme, des chaussures, des outils que normalement les autres étudiants se payent eux-mêmes. Lui, on lui avait tout donné en fait. Donc, je lui avais repris dans la journée tout ce qu'on lui avait donné. Et puis, dans la nuit, j'arrivais pas vraiment à dormir et je me disais mais non, je peux pas. C'est pas juste quoi. Et donc, je l'ai amené au bus et devant le bus, je lui ai redonné un sac bandoulière avec tous les outils dedans et puis une Bible aussi. Vu que je savais qu'il aimait bien la lire. Et je lui dis, écoute, Georges, t'as pas fini ta formation, mais ceci dit, t'as appris les bases de la maçonnerie. Tu sais faire un mur, tu sais faire du ciment. Je lui dis, donc, tu t'habilles avec ta combinaison, tu vas sur le premier chantier, il y en a partout à la capitale, et tu vas forcément trouver du travail. Et là, juste avant de monter dans le bus, il me dit, monsieur, je voulais quand même vous dire quelque chose avant de partir. Je lui dis, ah bon, dis-moi. Il dit, j'ai appris une chose ici. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce que t'as appris? Et là, il me dit, écoutez, en fait, avant de venir ici, ma vie était vraiment un cauchemar. J'ai essayé à plusieurs reprises de mettre fin à ma vie. Et en fait, ici, j'ai découvert que Dieu existait vraiment et que si je mettais fin à ma vie, ça arrangerait pas les problèmes, ça serait peut-être même pire. Il dit, donc, je voulais vous remercier pour ça. Et puis, avec un sourire, il est rentré dans le bus et puis il est reparti. Et ça m'a fait dire après que je me suis dit, Georges, moi, j'avais imaginé un peu une success story en me disant que Georges allait partir vraiment avec son certificat comme les autres. Son chemin était un peu différent, mais en fait, peut-être que ce jour-là, il est reparti avec quelque chose de plus précieux qu'un diplôme. C'était peut-être juste un peu d'espérance pour continuer dans la vie. Voilà l'histoire de Georges qui m'a marqué. Et figurez-vous que plus de 2 ans après, vu que les Zambiens ont tous Facebook sur leur téléphone, Georges m'a ajouté sur Facebook. Donc, je suis encore aujourd'hui en contact avec Georges, qui traverse toujours ses difficultés, mais qui m'écrit souvent en me disant « Ah, vous avez jamais perdu confiance en moi ». Donc, l'histoire avec Georges se termine pas 6 ans après. Et je pense qu'il va finir par s'en sortir puisqu'il a retrouvé depuis son père avec qui il est. Et donc, Georges, en fait, son rêve, c'était d'écrire un livre. En fait, il avait un excellent anglais. En fait, il avait un nom de famille américain. Et en fait, j'ai découvert que son père était un Américain qui avait toujours été expatrié, en fait, et qui avait eu une femme zambienne. Cette femme était décédée du sida. Et donc, lui était en rébellion contre son père, était parti vivre dans la rue. Donc, il était passionné par l'écriture et par la lecture. Et donc, c'est sûr que la maçonnerie l'intéressait moins que son rêve. Et finalement, il est toujours en train d'écrire ses notes. Il n'est pas devenu maçon. Et là, son nouveau projet, c'est de devenir chauffeur de taxi. Voilà. Parce qu'entre-temps, il s'est cassé la jambe. Et donc, il ne peut plus marcher correctement. Et donc, là, il est en train de voir comment passer son diplôme de taxi. Et son rêve, depuis toujours, c'est d'écrire un livre. Et je suis sûr que c'est quelque chose qui pourrait être possible parce qu'il a tellement une histoire incroyable. Surtout, on ne connaît pas encore la fin, mais ça va dans le bon sens, qui pourrait tout à fait écrire un roman. Ouais. Le bilan un peu de ma mission, en tout cas ce que je pourrais en tirer comme enseignement, comme fruit, ça a été d'abord la joie de me donner, en fait, de découvrir la joie du don, donc de mettre au service de mon prochain un peu dans la gratuité. Puisqu'avec Fidesco, on est volontaire, enfin, on a une toute petite indemnité pour s'acheter la nourriture, mais il n'y a pas de salaire. C'est vraiment dans une démarche de « je donne totalement 1 ou 2 ans de ma vie ». Et la devise de Fidesco, c'est « va, rends les autres heureux et tu connaîtras la joie ». Rends les autres heureux et tu connaîtras la joie. Et j'ai vraiment expérimenté ça, que le secret du bonheur, ce n'était pas de chercher son propre bonheur, donc chercher à être heureux par soi-même, mais c'était de chercher à rendre les autres heureux. Et qu'en fait, en rendant les autres heureux, en cherchant à être au service de ces Zambiens, à les aider, ces jeunes, notamment ces étudiants, c'était vraiment là pour eux que j'étais là-bas en premier. Ça m'a donné une joie immense que je peux pas forcément expliquer, presque une joie surnaturelle, je dirais. C'est comme si c'était une joie qui m'était donnée, je pense, moi, par Dieu, simplement en aidant les autres. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et même 6 ans après, ça me fait toujours, quand je sens de la tristesse, quand je sens que je suis pas pleinement heureux dans ma vie, en fait, je me pose toujours cette question, est-ce que je me donne assez? Et donc, j'essaie toujours d'avoir en parallèle, un engagement à côté de mon travail pour pouvoir expérimenter vraiment le don de moi-même. Voilà, avec mes talents, mes capacités. Ça, c'est la première chose. L'autre fruit de cette mission, ça a été la richesse de la culture zambienne. C'est des gens qui sont matériellement très pauvres. On est en dessous du seuil de pauvreté, hein. C'est moins de 2 euros par jour pour les villages comme Chikowa. Mais des gens qui ont une joie, s'il y avait le baromètre de la joie, on pourrait faire le seuil de la joie au niveau de chaque pays. Je pense qu'ils seraient dans le top 10 des pays. Et ils ont une joie vraiment étonnante. Et je crois que cette joie, elle vient du fait qu'ils vivent en communauté, qu'ils passent leur vie à s'entraider. Ils n'ont pas le choix, soit pour aller à l'hôpital, pour payer les frais de scolarité. Ils sont obligés de s'entraider. Il y a des banques, mais la plupart des Zambiens n'ont même pas de carte bancaire, ils n'ont pas de compte bancaire. Donc, ils s'entraident en permanence, en famille, et puis de façon plus large avec les cousins et les villages. Je crois que c'est ça qui leur donne aussi ce côté joyeux, humain et chaleureux. C'est qu'ils sont habitués, en fait, à servir leurs prochains et à partager tout ce qu'ils ont. Il y a vraiment une vraie générosité. Et puis, l'accueil, comme je vous disais, ils ont une capacité d'accueil. Je ne me suis jamais senti aussi bien accueilli qu'en Zambie. Donc ça, j'essaye de le reproduire quand je rencontre des étrangers, notamment, je pense, à tous ces étudiants étrangers, parfois africains, qui viennent de ces mêmes cultures et qui sont toujours surpris de voir qu'on n'a pas le même accueil que peut avoir l'Afrique, en tout cas moi la Zambie pour ce que je connais. Et enfin, je dirais qu'un dernier fruit de cette mission, ça a été un peu plus personnel, mais ça a été de découvrir en fait que j'étais capable, que j'étais capable de faire des choses qui me dépassaient. C'est-à-dire qu'en partant à 24 ans, je me sentais pas du tout en capacité d'être directeur d'une école technique. Enfin, ça me semblait complètement fou. Avec des jeunes qui avaient mon âge, à gérer des professeurs zambiens qui avaient jusqu'à 60 ans, en anglais. Je me suis dit, c'était impossible de faire un truc pareil, j'avais pas confiance en moi, en fait. Et en fait, je me suis surpassé en mission. Vraiment, je me suis même dépassé. Et ça, je le lis à Dieu, en fait. Moi, juste avant de partir, j'ai fait l'expérience de la rencontre avec Dieu. Et pendant ma mission, j'ai vécu ma foi vraiment au quotidien, avec mes co-volontaires. Et pour moi, c'est Dieu qui m'a, à travers cette mission, qui m'a aussi appris à avoir confiance en moi-même et à me rendre capable, en fait, d'être instrument d'une œuvre, de la transformation de jeunes, là, en l'occurrence, l'accompagnement, la formation des jeunes. quelque chose qui me dépasse et voilà, et qui aujourd'hui en tout cas me montre que je peux oser et voilà, et continuer à accepter des nouveaux challenges.
Merci Jean-Baptiste. Aujourd'hui, tu nous as emmenés jusqu'au cœur de ta mission en nous dévoilant l'intime de ce que tu as vécu en Zambie. Et merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'au bout du monde. On se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Cœur de Mission. Et cette fois-ci, nous irons encore un peu plus vers le sud de l'Afrique, en direction du Lesotho. Si vous avez aimé cet épisode de Cœur de Mission, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez plus d'histoires de volontaires sur le terrain, on vous donne rendez-vous sur notre site fidesco.fr et sur nos réseaux.